La chose du monde la plus ridicule, sans doute, ma chère Thérèse, me dit Clément, est de vouloir disputer sur les goûts de l'homme, les contrarier, les blâmer ou les punir, s'ils ne sont pas conformes soit aux lois du pays qu'on habite, soit aux conventions sociales. Et quoi ? Les hommes ne comprendront jamais qu'il n'ait aucune sorte de goût, quelque bizarre, quelque criminel même, qu'on puisse les supporter, qui ne dépendent de la sorte d'organisation que nous avons reçue de la nature ? Cela posé, je le demande. De quel droit un homme osera-t-il exiger d'un autre ou de réformer ses goûts ou de les modeler sur l'ordre social ? De quel droit même les lois qui ne sont faites que pour le bonheur de l'homme oseront-elles sévir contre celui qui ne peut se corriger ou qui n'y parviendrait qu'aux dépens de ce bonheur que doivent lui conserver les lois ? Mais désira-t-on même de changer de goût ? Le peut-on ? Est-il en nous de nous refaire ? Pouvons-nous devenir autres que nous sommes ? L'exigeriez-vous d'un homme contrefait ? Et cette inconformité de nos goûts est-elle autre chose au moral que ne l'est au physique l'imperfection de l'homme contrefait ? Entrons dans quelques détails, j'y consens. L'esprit que je te connais, Thérèse, te met à apporter de les entendre. Deux irrégularités, je le vois, t'ont déjà frappé parmi nous. Tu t'étonnes de la sensation piquante éprouvée par quelques-uns de nos confrères pour des choses vulgairement reconnues pour fétides ou impures. Et tu te surprends de même que nos facultés voluptueuses puissent être ébranlées par des actions qui, selon toi, ne portent que l'emblème de la férocité. Analysons l'un et l'autre de ces goûts et tâchons s'il se peut de te convaincre qu'il n'est rien au monde de plus simple que les plaisirs qui en résultent. Il est, prétends-tu, singulier que des choses sales et crapuleuses puissent produire dans nos sens l'irritation essentielle au complément de leur délire. Mais avant que de s'étonner de cela, il faudrait sentir, chère Thérèse, que les objets n'ont de prix à nos yeux que celui qui met notre imagination. Il est donc très possible, d'après cette vérité constante, que non seulement les choses les plus bizarres, mais même les plus viles et les plus affreuses puissent nous affecter très sensiblement. L'imagination de l'homme est une faculté de son esprit où vont, par l'organe des sens, se peindre, se modifier les objets et se former ensuite ses pensées en raison du premier aperçu de ces objets. Mais cette imagination résultative, elle-même de l'espèce d'organisation dont est doué l'homme, n'adopte les objets reçus que de telle ou telle manière et ne crée ensuite les pensées que d'après les effets produits par le choc des objets aperçus. Qu'une comparaison facilite à tes yeux ce que j'expose. N'as-tu pas vu, Thérèse, des miroirs de formes différentes ? Quelques-uns qui diminuent les objets, d'autres qui les grossissent, ceux-ci qui les rendent affreux, ceux-là qui leur prêtent des charmes. T'imagines-tu maintenant que si chacune de ces glaces unissait la faculté créatrice à la faculté objective, elle ne donnerait pas du même homme qui se serait regardé dans elle un portrait tout à fait différent ? Et ce portrait ne serait-il pas en raison de la manière dont elle aurait perçu l'objet ? Si aux deux facultés que nous venons de prêter à cette glace, elle joignait maintenant celle de la sensibilité, n'aurait-elle pas pour cet homme, vu par elle de telle ou telle manière, l'espèce de sentiment qui lui serait possible de concevoir pour la sorte d'être qu'elle aurait aperçu ? La glace qu'il aurait vue beau l'aimerait, celle qu'il aurait vue affreux le haïrait, et ce serait pourtant toujours le même individu. Telle est l'imagination de l'homme, Thérèse. Le même objet s'y représente sous autant de formes qu'elle a de différents modes et d'après l'effet reçu de cette imagination par l'objet, quel qu'il soit, elle se détermine à l'aimer ou à le haïr. Si le choc de l'objet aperçu la frappe d'une manière agréable, elle l'aime, elle le préfère, bien que cet objet n'ait en lui aucun agrément réel. Et si cet objet, quoique d'un prix certain aux yeux d'un autre, n'a frappé l'imagination dont il s'agit que d'une manière désagréable, elle s'en éloignera. Parce qu'aucun de nos sentiments ne se forme, ne se réalise qu'en raison du produit des différents objets sur l'imagination. Rien d'étonnant d'après cela que ce qui plaît vivement aux uns puisse déplaire aux autres. Et réversiblement, que la chose la plus extraordinaire trouve pourtant des spectateurs. L'homme contrefait trouve aussi des miroirs qui le rendent beau. Or, si nous avouons que la jouissance des sens soit toujours dépendante de l'imagination, toujours réglée par l'imagination, il ne faudra plus s'étonner des variations nombreuses que l'imagination suggérera dans ses jouissances, de la multitude infinie de goûts et de passions différentes qu'enfanteront les différents écarts de cette imagination. Ces goûts, quoique luxurieux, ne devront pas frapper davantage que ceux d'un genre simple. Il n'y a aucune raison pour trouver une fantaisie de table moins extraordinaire qu'une fantaisie de lit. Et dans l'un ou l'autre genre, il n'est pas plus étonnant d'idolâtrer une chose que le commun des hommes trouve détestable, qu'il ne l'est d'en aimer une généralement reconnue pour bonne. L'unanimité prouve de ta conformité dans les organes, mais rien en faveur de la chose aimée. Les trois quarts de l'univers peuvent trouver délicieuse l'odeur d'une rose, sans que cela puisse servir de preuve, ni pour condamner le quart qui pourrait la trouver mauvaise, ni pour démontrer que cette odeur soit véritablement agréable. Si donc il existe des êtres dans le monde dont les goûts choquent tous les préjugés admis, non seulement il ne faut point s'étonner d'eux, non seulement il ne faut ni les sermonner, ni les punir, mais il faut les servir, les contenter. Anéantir tous les freins qui les gênent et leur donner, si vous voulez être juste, tous les moyens de se satisfaire sans risque. Parce qu'il n'a pas plus dépendu d'eux d'avoir ce goût bizarre qu'il n'a dépendu de vous d'être spirituel ou bête, d'être bien fait ou d'être bossu. C'est dans le sein de la mère que se fabriquent les organes qui doivent nous rendre susceptibles de telle ou telle fantaisie. Les premiers objets présentés, les premiers discours entendus achèvent de déterminer le ressort. Les goûts se forment et rien au monde ne peut plus les détruire. L'éducation a beau faire, elle ne change plus rien. Et celui qui doit être un scélérat le devient tout aussi sûrement, quelque bonne que soit l'éducation qui lui a été donnée. Que vole sûrement à la vertu celui dont les organes se trouvent disposés au bien, quoique l'instituteur l'ait manqué.
Alors, un sabre assez inquiétant et en même temps très intéressant qui nous montre, on finira sur une note un peu plus légère après, je vous rassure, sinon on va tous avoir envie de se suicider, qui nous montre en fait qu'il n'y a pas de morale, hein, ça vous l'avez bien compris. Il n'y a pas du coup des gens qui ont des pratiques blâmables et d'autres pas. Pour Sade, et c'est difficilement acceptable pour nous, tout se vaut. Il l'a dit, les fantaisies de lit valent autant les fantaisies de bouche. Pourquoi n'aimez-vous pas le canard? Je ne sais pas. C'est la même chose avec toutes les pratiques sexuelles. Certains ont besoin d'associer la souffrance, la leur, le plus souvent d'ailleurs dans les romans de Sade, ou la souffrance d'autrui au plaisir sexuel. Ils n'en sont pas pour autant blâmables. Pour Sade, et c'est assez troublant de l'entendre, tout se forme dans le ventre de la mère. L'enfant reçoit ses premières perceptions et à partir de là construit son désir, construit ce que Sade appelle son imagination. Il y a donc chez lui un acquis très fort, un héritage à la naissance qui mêle à la fois l'imagination telle qu'elle a pu se former au premier regard, au premier contact, au premier mot entendu, et puis il y a aussi un corps, une nature chez Sade, ce qu'il appelle un tempérament. Certains ont un fort appétit, d'autres pas. Certains ont besoin de manger 300 kilos de viande, d'autres 2 grammes. Pourquoi ? C'est une physiologie. Pour Sade, on en hérite, on n'en est pas responsable. Et quelqu'un qui a besoin de manger beaucoup n'est pas un monstre. Il a juste un corps qu'il n'a pas choisi, de la même manière que celui qui est contrefait, comme il le dit, n'a bien sûr pas non plus choisi d'être laid. Tout se résume donc, a priori, à un héritage physiologique et fantasmatique, l'imagination qui joue un rôle très important, qui détermine ensuite notre vie sexuelle. Il n'y a pas, et notre vie sociale d'ailleurs aussi, le besoin ou pas de violence. Il n'y a pas du coup de morale. Mais on pourrait dire aussi, enfin d'ailleurs il le dit, la prison ne sert à rien par exemple. Puisque si vous avez hérité de cette physiologie et de ce caractère, comme Sade le dit, on peut bien vous enfermer 27 ans, vous ne changerez jamais. D'ailleurs, il ne cesse de répéter dans toutes ses correspondances, « Je ne changerai pas. On ne change pas un homme. Au contraire, dit-il, vous m'endurcissez et vous me dégradez encore avec la prison. » Donc on ne peut pas corriger l'acquis. l'inné plutôt, d'un être humain. Alors, ça pourrait donc être assez désespérant, le monde sadien. Tout serait du coup immobile. En réalité, ce qui est une petite lueur d'espoir, quelqu'un tout à l'heure, quand on discutait, disait, il n'y a pas d'espoir chez Sade. Eh bien, si, quand même, toujours, un petit peu. Petite lucarne, au fond, ce sont les femmes. Les femmes, elles échappent apparemment un tout petit peu plus au déterminisme du caractère, de la physiologie. Et on voit des personnages féminins changer dans les romans de Sade, c'est-à-dire être, par exemple, timorées, craintives, soumises à leurs parents, et puis, un peu plus tard, formées par la vie, acquérir du courage, de l'audace, et finalement, voir certaines idées qu'elles avaient, ou certains préjugés, disparaître. Il y a donc quand même des mutations possibles de l'identité, mais elles restent isolées, elles existent, elles sont un horizon pour Sade, mais elles ne sont pas du tout sa réalité. Lui, il passe son temps entier pour lui à dire qu'on ne changera pas ce qu'il est, et que du coup, il est le résultat d'une nature et d'un imaginaire forgé dans les premières années de sa vie. C'est intéressant pour nous de savoir que Sade était fait à la naissance. Bref, voilà le Sade sombre. Mais je vous ai dit qu'il fallait finir par une petite touche de légèreté. Sade, alors là, vous allez me dire que j'invente, mais non, était aussi un homme comique. Ça ne se voit pas forcément dans les passages qu'on a choisis, mais je tenais à finir aussi sur ce volet assez méconnu de son œuvre. Sade, je vous l'ai dit, a rêvé d'être un homme de théâtre, mais pas un tragédien, pas non plus un auteur de mélodrame, comme il aurait pu le faire à son époque où c'était le genre à la mode. Il s'est rêvé vraiment en auteur comique. L'idéal de Sade, pas forcément atteint, mais enfin, c'est le texte qui nous fait rire. Et du coup, les textes qui... Pour ça, je vous dis, bon... les textes qu'il signe, Aline et Valcourt, bon, les crimes de l'amour, non, c'est pas du tout comique, mais Aline et Valcourt, c'est un texte dont certains passages sont explicitement drôles. Sade a toujours voulu écrire des textes comiques. Et à la fin de sa vie, à Charenton, il va reprendre son recueil de nouvelles, Les crimes de l'amour. Alors, les crimes de l'amour, comme le titre l'indique, ce sont tous les crimes de l'amour, en l'occurrence l'inceste. C'est une série de 12 nouvelles consacrées à l'inceste, qui est une question obsessionnelle aussi chez Sade. Alors, rien de drôle dans les crimes de l'amour. Mais Sade décide d'écrire 12 nouvelles gaies, comme il dit, c'est l'adjectif qu'il emploie, des nouvelles à rire ou des nouvelles qu'il appelle encore plaisantes, hein, au sens fort d'une plaisanterie, quelque chose qui fait rire. Et ces nouvelles légères, il veut les entrelacer, c'est le mot qu'il emploie, dans les nouvelles sombres. Autrement dit, le recueil idéal que Sade imagine pour toutes ses nouvelles, en réalité, il n'a pas le temps de le faire, il meurt avant. Ce n'est pas d'un côté le recueil sombre avec les crimes de l'amour et puis d'un autre côté les histoires légères. Le meilleur livre, c'est celui qui les mêle et qui les alterne, de sorte que le lecteur va passer du rire aux larmes, hein, de la légèreté à la gravité. C'est ça le livre idéal, c'est celui qui nous promène comme ça... d'une émotion à l'autre et d'un plaisir à l'autre. Mais il y a pour lui, chez lui, une vertu du comique. D'ailleurs, entre parenthèses, vous imaginez quelqu'un qui a passé 27 ans seul dans sa prison, une fois qu'il a fait tous les trucs sexuels possibles, imaginables sur son propre corps, une fois qu'il a mangé tout ce qu'il y avait de bon à manger, parce qu'il passe son temps à sublimer aussi par la nourriture, qu'est-ce qui lui reste pour pas avoir envie de se suicider ? Le rire. Et donc, il imite les gardiens, il fait des sketchs, et il paraît qu'il est très doué pour les imitations. Et ses amis lui redemandent, mais imite-nous encore, monsieur machin, le gardien de Charenton. Alors, il fait le sketch, apparemment, il est très très fort pour faire les voix. Enfin, et du coup, il a aussi des complices à l'extérieur, des femmes qui le font rire, et il dit « Ah, j'ai ri ». Et du coup, c'est revivre, rire, déjà dans la vie, mais alors pour la sienne, a fortiori. Et donc, pour lui, c'est très important, l'histoire comique. Alors, l'histoire comique, c'est difficile de faire rire, c'est plus facile de faire peur. L'histoire comique, elle doit être brève, elle doit être piquante, elle doit être, comme il le dit, poivrée. Alors, je voulais qu'on finisse en entendant cette voix comique. C'est un petit conte de Sade, parmi ses contes légers qu'il a écrit à la fin pour les entrelacer, qui s'appelle « Il y a place pour deux ».
Une très jolie bourgeoise de la rue Saint-Honoré, d'environ 22 ans, grasse,
potelées, les chairs les plus fraîches et les plus appétissantes, toutes les formes moulées, quoique un peu remplies, et qui joignit à tant d'appât de la présence d'esprit, de la vivacité et le goût le plus vif pour tous les plaisirs que lui interdisaient les lois rigoureuses de l'hymen, s'était décidé depuis environ un an à donner deux aides à son mari qui, vieux et laid, lui déplaisait non seulement beaucoup, mais s'acquittait même aussi mal que rarement des devoirs qui, peut-être un peu mieux remplis, eussent pu calmer l'exigeante dolmen. Ainsi s'appelait notre jolie bourgeoise. Rien de mieux arrangé que les rendez-vous qu'on indiquait à ses deux amants. Desroux, jeune militaire, avait communément de 4 à 5 heures du soir et de 5h30 à 7 arrivé d'Olbreuse, jeune négociant de la plus jolie figure qu'il fût possible de voir. Il était impossible de fixer d'autres instants, c'était les seuls où Madame Dolmen fut tranquille. Le matin, il fallait être à la boutique, le soir, il fallait quelquefois y paraître de même, ou bien le mari revenait et il fallait parler de ses affaires. D'ailleurs, Madame Dolmen avait confié à une de ses amies qu'elle aimait assez que les instants de plaisir se succédassent ainsi de fort près. Les feux de l'imagination ne s'éteignaient pas, prétendait-elle. De cette manière, rien de si doux que de passer d'un plaisir à l'autre. On n'avait pas la peine de se remettre en train. Car Madame Dolmen était une charmante créature qui calculait au mieux toutes les sensations de l'amour. Fort peu de femmes les analysaient comme elle, et c'était en raison de ses talents qu'elle avait reconnu que, toute réflexion faite, deux amants valaient beaucoup mieux qu'un. Relativement à la réputation, cela devenait presque égal, l'un couvrait l'autre, on pouvait se tromper, ce pouvait être toujours le même qui allait et revenait plusieurs fois dans le jour, et relativement au plaisir, quelle différence. Madame Dolmen, qui craignait singulièrement les grossesses, bien sûr que son mari ne ferait jamais avec elle la folie de lui gâter la taille, avait également calculé qu'avec deux amants, il y avait beaucoup moins de risques pour ce qu'elle redoutait qu'avec un, parce que, disait-elle en assez bonne anatomiste, les deux fruits se détruisaient mutuellement. Un certain jour, l'ordre établi dans les rendez-vous vint à se troubler, et nos deux amants qui ne s'étaient jamais vus firent, comme on va le voir, connaissance assez plaisamment. Desroux était le premier, mais il était venu trop tard, et comme si le diable s'en fût mêlé, Dolbreuse, qui était le second, arriva un peu plus tôt. Le lecteur plein d'intelligence voit tout de suite que de la combinaison de ces deux petits torts devait naître malheureusement une rencontre infaillible. Aussi eut-elle lieu. Mais disons comment cela se passa. Et si nous le pouvons, instruisons-en avec toute la décence et toute la retenue qu'exige une pareille matière déjà très licencieuse par elle-même. Par un effet de caprice assez bizarre, mais on en voit tant chez les hommes, notre jeune militaire, las du rôle d'amant, voulut jouer un instant celui de maîtresse. Au lieu d'être amoureusement contenu dans les bras de sa divinité, il voulut la contenir à son tour. En un mot, ce qui est dessous, il le mit dessus, et par ce revirement de partie, penché sur l'autel où s'offrait ordinairement le sacrifice, c'était Madame Dolmen qui, nue comme la Vénus Callipyge, se trouvant étendue sur son amant, présentée en face de la porte de la chambre où se célébraient les mystères, ce que les Grecs adoraient dévotement dans la statue dont nous venons de parler, cette partie assez belle en un mot, qui sans aller chercher des exemples si loin trouve tant d'adorateurs à Paris. Telle était l'attitude quand Dolbreuse, accoutumée à pénétrer sans résistance, arrive en fredonnant et voit pour perspective ce qu'une femme vraiment honnête ne doit, dit-on, jamais montrer. Ce qui aurait fait grand plaisir à beaucoup de gens fit reculer Dolbreuse.
« Que vois-je ? » s'écria-t-il. « Traîtresse, est-ce donc là ce que tu me réserves ?»
Madame Dolmen, qui dans ce moment-là se trouvait dans une de ces crises où une femme agit infiniment mieux qu'elle ne raisonne, se résolvant à payer des fonderies.
« Que diable as-tu ? » dit-elle au second Adonis, sans cesser de se livrer à l'autre. « Je ne vois rien là de trop chagrinant pour toi. Ne nous dérange pas, mon ami, et loge-toi dans ce qui te reste. Tu le vois bien, il y a de la place pour deux. »
Dolbreuse, ne pouvant s'empêcher de rire du sang-froid de sa maîtresse, crut que le plus simple était de suivre son avis. Il ne se fit pas prier et l'on prétend que tous trois y gagnèrent.
Merci.